Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 18 septembre 2021. La crise déclenchée par l'affaire des sous-marins s'intensifie avec ce matin la décision de Paris de rappeler ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. En Algérie, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika est mort à l'âge de 84 ans. Et l'Australie vient de recevoir son premier lot de vaccins anti-Covid fabriqués par Moderna. Et la crise des sous-marins qui a émergé jeudi a franchi un nouveau cap ce matin avec le rappel à Paris de l'ambassadeur de France à Canberra, tout comme d'ailleurs celui de son homologue à Washington. La rupture unilatérale du contrat portant sur l'acquisition de 12 sous-marins auprès de Naval Group est vécue comme une trahison par l'exécutif français, une trahison qui pourrait même remettre en cause la signature du traité de libre-échange en cours de négociation entre l'Australie et l'Union européenne. C'est ce qu'a indiqué hier soir Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, dans une interview accordée à France 24.
Les ministres des armées et des affaires étrangères ont l'occasion de le dire, c'est une grave rupture de confiance de la part de l'Australie. Vous savez, les relations internationales, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas des bons sentiments, mais la parole et la signature d'un contrat en particulier vaut quelque chose. Si on n'a plus confiance, on ne peut pas avancer. On a des négociations commerciales avec l'Australie, je ne vois pas comment on peut faire confiance aux partenaires australiens. Ne nous trompons pas, ce n'est pas un sujet contre la France ou une mauvaise humeur française. C'est une rupture de confiance qui s'est jouée avec l'Europe.
Et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a pour sa part souligné qu'au-delà du contrat sur les sous-marins, cette affaire était très loin d'être terminée. C'est ce qu'il a expliqué sur France Info.
Ce n'est pas fini. Parce que,
qu'est-ce qui va se passer ?
Bah, il va falloir des clarifications. Nous avons des contrats. Il faut que les Australiens nous disent comment ils s'en sortent.
Vous avez demandé des indemnités ?
Il va falloir donner des explications.
Explications ou de l'argent ?
On va voir. Et nous avons un accord intergouvernemental que nous avons signé en grande pompe en 2019 avec des engagements précis, des articles de ce texte. Comment ils s'en sortent ? Il va falloir qu'ils nous disent. Donc on n'est pas à la fin de l'histoire.
À ce stade, le gouvernement australien n'a pas réagi officiellement au rappel de l'ambassadeur français à Paris. En revanche, dans l'opposition, Mark Dreyfus, qui officie en tant que Shadow Attorney General, estime que Scott Morrison devrait prendre la colère française au sérieux.
The French were blindsided by this decision and Mr. Morrison should have done much more to protect the relationship. The Morrison-Joyce government needs to explain what it is going to do to fix this important relationship.
Ce rappel de l'ambassadeur à Paris, c'est en tout cas une mesure exceptionnelle et totalement inédite dans la relation diplomatique franco-australienne. Mais exactement, quand un pays rappelle un ambassadeur, qu'est-ce que ça signifie ? On va écouter les explications d'Antoine Bondaz. Il est chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il a donné quelques éléments de compréhension à nos confrères de Radio France Internationale.
La France, très clairement, indique son mécontentement, sa colère et même un sentiment de trahison vis-à-vis des États-Unis et de l'Australie, et notamment par rapport à ce qui a été révélé dans la presse ces dernières heures, c'est-à-dire que malgré les demandes explicites de la France ces dernières semaines, ces derniers mois, pour savoir si l'Australie était en train peut-être d'évaluer un changement dans sa position et notamment potentiellement chercher à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, les Australiens et les Américains avaient alors confirmé aux Français qu'ils ne cherchaient pas cette option, que ce n'était pas envisagé, et donc le sentiment de la trahison côté français est extrêmement important, et cette décision de rappeler dans les ambassadeurs vise à faire comprendre à Canberra et à Washington que la France est extrêmement déchue, se sent trahie et est en colère.
En Algérie, la télévision publique a annoncé il y a quelques heures le décès de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, mort à l'âge de 84 ans. Ancien héros de l'indépendance algérienne, Abdelaziz Bouteflika était devenu un personnage omniprésent dans la vie politique locale au cours des 60 dernières années. Il avait fini par être écarté du pouvoir en 2019 alors qu'il entamait un cinquième mandat présidentiel sous la pression à la fois de la rue et de l'armée. Retour sur son parcours avec Marie-Pierre Olfan pour RFI.
C'est en 1937 qu'Abdelaziz Bouteflika voit le jour au Maroc, là où son père avait émigré très jeune. Mais il n'oublie pas ses racines. Quand en 1956, en pleine guerre d'Algérie, les indépendantistes demandent aux étudiants de rejoindre le mouvement de libération nationale, il entre très vite au FLN et devient même secrétaire particulier du colonel Boumédienne. En 1962, à l'indépendance, il n'a que 25 ans quand il est nommé ministre de la Jeunesse, puis ministre des Affaires étrangères, le plus jeune à ce poste dans le monde. Un poste qu'il occupera 16 ans au moment où son pays joue un rôle important au sein du mouvement des non-alignés. À la mort de son mentor Boumédienne, il est pendant un temps écarté de la vie politique et poursuivi même pour détournement de fonds. Abdelaziz Bouteflika laisse passer l'orage. Après des années de décennies noires, il se présente en 1999 à la présidentielle avec le soutien des militaires. Après deux mandats, il modifie la constitution, ce qui l'autorisera à rester au pouvoir. En 2014, il est réélu pour un quatrième mandat qu'il passera assis sur sa chaise roulante, très affaibli par un accident vasculaire cérébral.
En France, une nouvelle journée très éprouvante au procès des attentats du 13 novembre 2015. Vendredi, c'est un policier de la brigade criminelle qui est apparu à la barre. Il a détaillé les constatations qu'il a faites au Bataclan, cette salle de spectacle où 90 personnes ont été abattues. Il a décrit une scène de guerre. On revient sur cette journée d'audience avec Marine de la Moissonnière pour RFI.
22 secondes qui, comme a prévenu l'enquêteur, durent une éternité. De la musique d'abord, puis des bruits secs, des tirs en rafale, puis par à coup, un Larsen. On entend vaguement des cris, la musique finit par s'arrêter. Dans la salle d'audience, un silence extrêmement lourd. C'est un dictaphone retrouvé sur place qui a enregistré la barbarie, explique le policier très ému. Écoutez, ce bref extrait permet de réaliser le côté soudain de l'attaque. Une attaque qui a duré 2h38 minutes et 47 secondes jusqu'à l'assaut de la BRI. Précise encore l'enquêteur, l'intégralité de la bande a été retranscrite, mais lui ne lit à la barre que certains propos des terroristes. Vous bombardez nos frères en Syrie et en Irak, on est venu faire la même chose, l'heure de la vengeance a sonné. Voilà pour les revendications, aucune image décor n'est diffusée. C'est à l'aide de clichés du Bataclan tel qu'il est aujourd'hui que l'enquêteur indique où sont mortes chacune des 71 personnes abattues à l'intérieur de la salle. À chaque fois, le policier lit le nom des victimes. Dans la salle d'audience, quelques pleurs. La majorité des personnes sont mortes dans la fosse au début de l'attaque. Les terroristes ont tiré plus de 250 fois en une demi-heure. Des rafales la plupart du temps, mais aussi des coups de feu sporadiques.
Aux États-Unis, la sécurité a été renforcée autour du Capitole à Washington alors que des centaines de manifestants d'extrême droite ont prévu de s'y rassembler pour apporter leur soutien aux émeutiers qui ont été arrêtés après l'assaut de ce même bâtiment, siège du pouvoir législatif américain, en janvier dernier. Parmi les moyens déployés, une centaine de membres de la garde nationale. Le chef de la police du Capitole, Thomas Menger, a indiqué que les menaces de ce rassemblement étaient prises très au sérieux par les autorités.
Our mission tomorrow is our mission every day, and that is to protect everyone's rights to free speech and to allow them to lawfully demonstrate. And we have a strong plan in place to ensure that it remains peaceful and that if violence does occur, that we can stop it as quickly as possible. We're not going to tolerate violence and we will not tolerate criminal behavior of any kind.
Le gouvernement britannique, pour sa part, a annoncé la mise en place de nouvelles règles plus souples concernant les voyages à l'étranger. Les conditions de dépistage, notamment, seront allégées pour les personnes complètement vaccinées. Elles n'auront plus besoin d'être testées avant de partir. En revanche, elles devront toujours se soumettre à un test avant d'atterrir en Grande-Bretagne. Mais à partir du mois prochain, ce test sera plus simple et surtout moins cher. Un assouplissement que le secrétaire d'État au transport, Grant Chipps, justifie par le taux élevé de vaccination en Grande-Bretagne où 82% de la population âgée de plus de 16 ans a reçu les deux doses de vaccin.
It does give us some additional freedoms that we didn't really have before. One of those is that we can drop the pre-departure tests. Another is that we can drop the expensive PCR tests on day two when people got back from abroad. But we will still require people to buy and use a lateral flow test. Everyone knows they're much more straightforward. They're inexpensive. You do the test at home, you see the result at home within minutes.
Et alors qu'en Angleterre, donc, les conditions d'entrée dans le pays en cette ère de pandémie s'assouplissent, elles vont se durcir à partir de lundi en Suisse, où donc dès lundi, toutes les personnes non vaccinées devront présenter un test négatif pour entrer dans la Confédération. L'Australie vient de réceptionner son premier lot de vaccins produits par Moderna. Au total, 1 million de doses doivent arriver au cours du week-end. Ce vaccin est réservé aux personnes âgées de 12 à 59 ans. Et comme pour les vaccins Pfizer et AstraZeneca, il faut recevoir 2 doses pour être immunisé. Un nouveau vaccin donc dont les autorités espèrent qu'il permettra d'accélérer la vaccination des plus jeunes. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, veut y voir un moyen d'atteindre rapidement l'objectif de 80% de la population immunisée.
There's sufficient vaccine for every Australian before the end of October, if not significantly earlier. The supply is there and the opportunity is there. And so if you haven't been vaccinated, please come forward. But if it's a friend or a family member, please keep encouraging people to come forward to protect themselves and to protect all of us.
Et dans les deux plus grandes villes du pays, Melbourne et Sydney, la police est en alerte puisque des manifestations anti-confinement sont prévues aujourd'hui. Des barrages routiers ont été mis en place pour bloquer l'accès au centre-ville de ces deux villes. Et le fonctionnement des trains, des tramways et des bus va être interrompu à Melbourne jusqu'à 14 heures. Seuls les travailleurs essentiels et les personnes ayant rendez-vous pour se faire vacciner seront autorisés à franchir ces barrages routiers. Mais ces interruptions de trafic sont une source importante de gêne pour les usagers des transports publics à Melbourne. C'est l'avis de Daniel Bowen, le porte-parole de l'Association des usagers des transports en commun.
It's unprecedented to shut down the entire inner part of the public transport network. And so the government does need to do everything they can to mitigate that disruption for the people that do have to travel. People who are going to a vaccination appointment, people who are essential workers do have to get around and they're going to find it very difficult.
Et on fait maintenant un point sur la météo du jour en Australie. Un peu de pluie à Perth où il fait 20 degrés aujourd'hui. Temps humide aussi à Adélaïde avec 17 degrés, 16 degrés à Melbourne, 26 à Sydney, mais le temps est nuageux. Grand soleil en revanche à Brisbane où il fait 26 degrés. Ça monte jusqu'à 28 à Cairns et carrément jusqu'à 34 à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.